Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 24 novembre 1984.
Continuons d'entrer dans ce problème de l'éthique religieuse. Alors comprenez bien, c'est toujours une analyse philosophique que nous faisons. C'est-à-dire, dans notre vie de chrétien, je reprends parce que je sais que pour certains, ils ne voient pas très bien où se situe cette analyse. Ils me l'ont dit, alors je reprends. Dans notre vie de chrétien, nous vivons de la foi. Et notre vie chrétienne nous lie immédiatement à Jésus. Les vertus théologales ne suppriment pas les vertus morales. Et les vertus morales sont des vertus acquises. Nous avons progressivement appris à prier et nous continuons d'apprendre à prier. Et personne d'entre nous n'oserait dire « je sais prier ». Dans l'ordre de la prière, nous sommes toujours comme des tout-petits. Nous savons bien. Et cependant, progressivement, s'acquiert en nous, nous acquérons progressivement ce qu'on appelle la vertu de religion. Nous devenons religieux. Voyez dans quel sens, fondamentalement, ça s'acquiert la vertu de religion. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui acquièrent la vertu de religion. C'est vrai, on prend des diplômes de commerçants, mais la vertu de religion, l'aspect économique est très développé, mais les vertus de religion. Alors, vous le voyez, dans des familles chrétiennes, je viens de prêcher une récollection à Poissy, à 60 jeunes foyers, et la question, comment apprendre à nos enfants à prier? La grande question. Comment éveiller la foi et la vertu de religion chez les enfants? C'est vrai, c'est un problème. Je pourrais reprendre toute la récollection avec vous. Je pensais à vous en faisant la récollection. Je me dis, c'est dommage qu'ils ne sont pas là dans le fond. Ils comprendraient peut-être mieux le cours de l'éthique religieuse. Parce que c'est important pour nous de comprendre que un gosse qui a été baptisé, il a les vertus théologales. Et les vertus théologales, il faut qu'elles s'exercent. Les parents ne donnent pas les vertus théologales. C'est le Christ qui les donne. C'est l'Esprit Saint qui les donne. C'est même pas l'Église. L'Église use des sacrements et l'Église est mère par Marie. Et Marie donne la vie divine. Et la vie divine s'épanouit par les vertus théologales. Et les vertus théologales ne peuvent pas s'exercer pleinement sans que notre nature humaine, créée à l'image de Dieu, progressivement acquiert des vertus. Et quand on entre noviciat aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de vertus. Ordinairement, on n'a pas beaucoup de vertus. Ça met du temps à pousser. Ça met du temps à pousser. Et la vertu de religion est une vertu fondamentale qui met du temps à pousser. Et la vertu de religion, c'est la vertu qui nous apprend à avoir vis-à-vis de Dieu, comme créateur, une attitude normale. Je dis bien. L'attitude qu'on doit avoir. La vertu de religion, pour saint Thomas, fait partie de la justice. Parce que ça regarde l'autre. Et la justice regarde le respect à l'égard de l'autre. Et à l'égard de Dieu, on n'a pas, au sens strict, une attitude de justice. Vous ne payez pas vos dettes à l'égard de Dieu. Hein? Vous seriez toujours débiteur. Parce que Dieu vous a tout donné. Mais alors vous adorez. À la place de payer vos dettes, vous adorez. Et c'est vrai, l'adoration, c'est l'attitude première à l'égard de Dieu. Bon, vous voyez qu'en tant que chrétien, votre adoration se fait par le Christ. Des adorateurs en esprit, en vérité. Et c'est vrai, vous adorez avec Jésus. Concrètement, vous ne pouvez pas adorer sans Marie. Comme un gosse qui apprend à faire au nom du Père, à se mettre à genoux auprès de sa mère. Ben, nous sommes comme ça. Si Marie n'est pas là, nous avons beaucoup de peine. Nous sommes distraits, tout le temps distraits. Et ça ne fait pas partie de la vertu de religion, les distractions. Ça fait partie de la fantasia. Hein? Toutes les fantaisies qui sont dans nous. Et les fantaisies n'aiment pas beaucoup la vertu de religion. Regardez les artistes. S'ils sont très chrétiens, ils adorent. Mais l'artiste comme artiste n'adore pas. Il aime mieux créer, réaliser quelque chose, être son petit Dieu. Par la création artistique, il est très autonome. Par l'adoration, il reconnaît la dépendance. La vertu de religion, donc, s'acquiert pour nous à travers les vertus théologales. Pratiquement, c'est comme ça que nous vivons. Donc, votre vie théologale de foi, d'espérance et de charité, progressivement, s'enracine dans votre vie humaine par la vertu de religion. Votre nature humaine, votre vie humaine ne peut devenir chrétienne, je dis bien ne peut devenir chrétienne que par l'intermédiaire de la vertu de religion. Je fais ce petit schéma pour que vous compreniez bien. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne voient pas assez. Alors, nous avons une vie de foi, d'espérance et de charité. Vie théologale. Vie proprement chrétienne. Notre vie est proprement chrétienne dans la foi, l'espérance et la charité. C'est la vie de grâce donnée par Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est net. Vous ne pouvez pas faire un acte de foi sans Jésus. Vous ne pouvez pas faire un acte d'espérance sans Jésus. Vous ne pouvez pas faire un acte de charité sans Jésus. Et son Esprit, l'Esprit Saint. Cette grâce s'enracine dans votre nature humaine. Votre nature d'homme créée à l'image de Dieu. C'est votre nature humaine qui est créée à l'image de Dieu. Et la foi, c'est la greffe dans votre âme. Je veux dire, la grâce, c'est la greffe qui est dans votre âme et qui transforme votre âme d'image en fils de Dieu. La vie théologale, c'est votre vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cette vertu de religion va s'enraciner dans votre volonté. Et votre volonté humaine a comme activité première d'aimer. C'est l'amour. L'amour volontaire qui s'épanouit dans l'amitié. L'amitié. Voyez, quand on est à les égouts. Oh non, qu'est-ce que c'est? Les trois concupiscences. Et la concupiscence qu'elle regardera en premier lieu, la concupiscence de la chair. Tous vos désirs érotiques, ça l'intéresse pas. Follement intéressant. Follement intéressant, les désirs érotiques. Ça, c'est visible. Voilà ce qu'il regarde. Puis, il regarde aussi votre grosse vanité. Ah, votre poids. Là, 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 là. Vous êtes le centre de l'univers. Et tu vois, c'est facile à voir dans vos cauchemars, dans vos rêves. Vous êtes le centre, voyez bien, tout se ramène à vous. De temps en temps, il touche un tout petit peu l'orgueil. C'est déjà plus subtil. C'est comme si l'analyste ne regarde pas beaucoup l'intelligence. C'est plutôt les deux grosses concupiscences. Puis alors, il analyse ça. Vous comprenez que l'analyse des concupiscences, c'est sans fin. Il n'y a pas de finalité. Donc c'est sans fin. C'est indéfini. Le labyrinthe, si on vous met dans les égouts de Paris, le labyrinthe. Et plus la ville de Paris grandit, plus les égouts grandissent. Pas de finalité. C'est un labyrinthe. Alors vous projetez là-dessus quelques idées vagues et vous paraissez intelligent. Oui, oui, vous prenez la bascule du concupiscible et l'irascible, c'est pas étonnant. Vous n'avez pas été satisfait dans votre enfance parce que vous aviez une mère qui était captative. Tout s'explique par là, c'est évident, tout s'explique par là. Tout peut s'expliquer par la mère captative. Je ferai un psychanalyste merveilleux, tout expliqué par ça. C'est très facile de tout expliquer par la mère captative. On a tous eu une mère captative parce qu'on n'a pas eu une sainte vierge comme mère. Et notre mère avait des idées, forcément. Même si elle était très bonne, elle avait quand même de temps en temps des désirs captatifs. On a eu un père. Oh alors, l'autorité du père. Oh là 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 là. Dès qu'il arrivait, tout. C'était les colères paternelles. Il vous a donné une gifle quand vous étiez petit. Hein? Ça arrivait, ça. Alors, cette gifle, elle reste présente dans toute votre vie. Alors, irascible, concupiscible, ça explique tout, le point de vue, ce labyrinthe, les trois concupiscences. Vous voyez, on regarde tout par là. Or, ceci, les concupiscences, c'est notre conditionnement humain. Il n'y a pas de finalité. La finalité apparaît avec l'amour. La finalité apparaît avec la vertu de religion. La finalité apparaît au niveau chrétien, le Christ. Vous voyez le regard philosophique tout à fait différent du regard psychanalytique. À la place de regarder les égouts, moi j'essaie de regarder le sommet. Je sais que les égouts existent. C'est bien évident qu'ils existent. Mais les égouts ne nous font rien comprendre de ce que c'est que l'homme. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça me fait comprendre le conditionnement, la complexité qui est en moi. C'est très important de le connaître. C'est très important de savoir que ça existe. Mais c'est pas cela qui va me faire comprendre ce que c'est que l'homme au niveau moral. La philosophie éthique essaie de comprendre le niveau moral de l'homme, c'est-à-dire là où j'ai un acte volontaire. Le conditionnement s'impose comme quelque chose de nécessaire. C'est vrai, je suis enlisé là-dedans. Et chacun d'entre nous, on est enlisé dans le concupiscible. Comment voulez-vous lutter contre le concupiscible au nom du concupiscible? C'est impossible. Vous pouvez pas. Alors vous tombez de carrément celle-là. C'est-à-dire, la colère peut me corriger de mon concupiscible. Et mon concupiscible peut me corriger. les fruits pourris. Alors, votre concupiscible, aucune satisfaction. Vous sentez. Vous êtes de mauvaise humeur. Mais c'est évident, ça, c'est une évidence. Quand vous restez au niveau du concupiscible, si vous avez fait des actes héroïques d'offrande à Dieu, Seigneur, c'est merveilleux, je peux vous offrir des pommes pourries. Je peux vous offrir de l'argent, je peux vous offrir tout ça, c'est merveilleux. Alors oui, vous avez prié, vous avez dépassé. Vous avez retrouvé le volontaire religieux qui a permis de porter tout ça. Et vous sortez heureux, oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux les repas monastiques, parce que c'est une offrande perpétuelle à Dieu. Il n'y a pas de contenu, c'est tout est offert à Dieu, c'est merveilleux. Alors, la religion assume tout ça. Pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Mais s'il n'y a pas de temps en temps, un jour de fête, ça craque. De temps en temps, qu'il y ait quand même un tout petit peu de repos. Non, ceci, c'est pour vous montrer les niveaux d'analyse. Je les compte. Hein. Le sommet, la foi. Second niveau, la religion. Troisième niveau, l'amitié. Quatrième niveau, les concupiscences. Vous avez dans votre analyse que vous pouvez faire quatre niveaux. Ça, nous pouvons tous saisir ça. Hein. Mais voyez, le niveau de la foi, ben oui, c'est notre vie chrétienne. Le niveau religieux, c'est notre rapport avec Dieu. Le niveau de l'amitié et le niveau de la concupiscence. Quatre niveaux. Il faut vous habituer dans votre introspection, dans votre analyse de vous-même, de vos activités. Il faut vous habituer à voir ces quatre niveaux.
Si vous avez un ami, c'est une mère. Mais si vous avez l'autorité, c'est un...
frappe psychologique, elle s'impose comme du nécessaire. Si je reste à ce niveau-là, mais ce nécessaire se relativise grâce à la finalité. C'est très intéressant, ça, de voir ça, que le nécessaire, le conditionnement, regardez en lui-même, je peux donner des lois psychologiques. Et des lois psychologiques très simples, concupiscible et racine. Pratiquement, ça se ramène tout le temps à ça. Concupiscible et racine. Si tu restes très intéressant, c'est pas bête du tout. C'est très intéressant de regarder cette espèce d'appel du concupiscible et l'irascible. C'est fondamental. Et pour nous, dans un regard théologique, on dira concupiscence de la chair, concupiscence des yeux. Et puis la troisième, oh alors là, concupiscence de la vie, l'orgueil. Mais l'orgueil ne se manifeste jamais à l'état pur. Jamais. L'orgueil se cache. Et puis, chez le gosse, ça se voit pas. Vous n'allez pas dire un gosse qui n'a pas pris son biberon, tu es orgueilleux. Ben non. Tu diras, tu as faim, c'est tout. Mais tu manifestes un peu trop ta faim. Si tu manques de respect vis-à-vis des autres qui désirent être un tout petit peu dans le calme, vous n'allez pas faire une leçon morale au gosse. Vous dites tout simplement, il n'a pas eu son biberon. Les lois de l'irascible, les lois du conditionnement. Mais je suis à un niveau infra-humain. Le petit animal qui est en moi, il est comme ça, que voulez-vous. Et je sais que j'ai un petit animal en moi. Et si je suis intelligent, de temps en temps, je le caresse. Dis mon bon petit, je sais, attends un tout petit peu. Mais il faut quand même un petit peu savoir qu'on a un petit animal en nous qu'on doit dresser. Les vertus ne sont pas à ce niveau-là. Les vertus commencent ici, au niveau volontaire. C'est la volonté qui est le lieu des vertus. Et l'intelligence. Et par la volonté, le concupiscible devient vertueux. Et par la volonté, l'irascible devient vertueux. Mais ça met du temps. Ça met du temps, ça. Il faut arriver à comprendre cela, que c'est par la volonté. Donc, c'est le volontaire que j'étudie. Le volontaire en moi. C'est à partir de là que j'ai la philosophie éthique. L'éthique étudie le volontaire. Et dans toutes ses dimensions. Mais il y a dans le volontaire quelque chose qui est particulièrement important. C'est le volontaire qui découvre l'existence d'un être premier qu'on appelle le Créateur et Dieu. Et le volontaire, à ce moment-là, devient religieux. Il faut l'écrire en rouge. Et ce volontaire religieux, si je reçois la grâce, il devient chrétien. Le café du matin, c'est le biberon.
concerne. Non. Votre raison, c'est le Christ. C'est la Vierge Marie, c'est l'Esprit Saint. Mais c'est vrai que vous faites oraison. C'est votre personne humaine qui fait oraison. C'est votre personne humaine qui est sanctifiée par la grâce. Elle implique le point de vue religieux. Elle implique le point de vue volontaire de l'amour, d'amitié. Et elle implique le point de vue des concupiscences. Tout est présent, toujours, dans ma personne humaine. Dans le « je suis ». Dans le « je suis », tout ça est présent. Je suis dans mon moi personnel. Tout ça est présent. Mais il y a des moments où les vertus théologales l'emportent. L'oraison. L'exercice des vertus théologales l'emporte. Il y a des moments où les vertus théologales doivent assumer l'attitude religieuse, prière liturgique. La vertu de religion. Quand dans l'oraison, vous faites des actes d'adoration pour vous réveiller, alors c'est les vertus théologales qui assument la vertu de religion. Puis, il y a des distractions. Vous regardez tel frère que vous aimez bien. Ah, vous dites, ah, ce qui fait bien oraison. Il prie admirablement. Distraction. Distraction de l'amour d'amitié. Vous louchez. Vous êtes comme Cain, mais vous admirez Abel. Alors ça va. C'est votre petit Abel. Mais si c'est pas votre petit Abel et que c'est au contraire celui que vous avez supporté difficilement, vous mettez à loucher, c'est pas normal qu'il fasse oraison comme ça. Quelque chose qui va pas. Alors à ce moment-là, vous louchez. Distraction. Vous voyez, l'amour d'amitié peut devenir une distraction. Parce qu'il n'est pas immédiatement dans l'oraison l'amour d'amitié. Ah, ça devient une distraction. Puis vous pensez au petit déjeuner. Ah, grosse distraction. Fondamentale, celle-là. Café du matin. Ça, plus du tout. Distraction. Vous élaguez. Enfin, analysons notre vie. Nous voyons bien que tous ces niveaux, ils sont. Bon, une fois que j'ai compris que tous ces niveaux, ils sont, je peux analyser chacun de ces niveaux. Si on faisait un cours de psychologie, on analyserait tout point de vue du conditionnement. Et c'est important. C'est important de comprendre ce conditionnement, les leviers de commande. Dans l'ordre pratique, c'est assez vite fait. Une fois qu'on est un petit peu lucide. Il faut être lucide parce que ce qui est très difficile dans le conditionnement, c'est que l'imaginaire joue un rôle très important. C'est l'imaginaire qui fait ses connexion nécessaire entre le concupiscible et l'irascible. C'est pour ça que ces connexions ne sont pas toujours les mêmes pour l'un et pour l'autre. C'est l'imaginaire qui fait ces connexions. Alors, je peux étudier ce niveau 4, je peux étudier au plan philosophique. La psychologie ne peut pas atteindre le niveau 3. C'est la philosophie. Pourquoi ? Parce que par la volonté, c'est tout de suite le point de vue de la finalité. L'amour d'amitié, la finalité. Et puis l'autre finalité, la vertu de religion, numéro 2. Vous voyez, et puis le niveau 3, ce sera l'éthique chrétienne. Non pas étudiée à partir de la foi, mais à partir c'est ce respect à l'égard de Dieu. Donc vous voyez, c'est capital de comprendre ces différents niveaux. Et il faut que ce soit très lucide dans notre vie. Il faut qu'on s'y habitue. Vous voyez, c'est l'éthique, la philosophie éthique doit être pour nous une grande lumière dans ce petit laboratoire de notre vie humaine. Et vous puissiez tout de suite détecter ça. Ça vous allège énormément. Vous voyez, quand vous avez une distraction dans l'horizon, vous dites, mais oui, il ne faut pas s'affoler. Ben oui, l'animal gris, il aboie. Ben, très bien, il aboie. Mais tu auras ta tasse de café après. T'inquiète pas, tu l'auras. Elle t'est promise, mais tais-toi maintenant, je t'en supplie. On a envie de prier. Alors on prie, et puis on s'élève petit à petit à la fois. De l'adoration, on a la contemplation. De l'adoration, la vertu de religion, on va arriver à la contemplation. Et on passe toujours de l'adoration à la contemplation. De la prière liturgique qui implique la foi à travers le point de vue religieux et à travers la communauté. La prière liturgique s'enracine dans l'adoration et conduit à la contemplation. Faut pas dire la prière liturgique conduit au petit déjeuner. La prière liturgique